Gloire à celui qui vit au siècle indéfini, à celui qui est assis sur le trône, de qui et par qui sont toutes choses, celui qui nous donne à tous l'être et le mouvement. Il est bon, celui qui nous a aimés d'un amour véritable et celui qu'on appelle l'amour, car il est écrit que Dieu est amour. Mes bien-aimés, nous sommes au septième jour aujourd'hui que nous partageons sur les fêtes de l'Éternel. Et hier, plutôt la fois passée, nous avions parlé de la fête des semaines ou la Pentecôte. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pensé qu'il était important qu'on insiste sur un certain nombre de points concernant cette fête. Donc, nous allons parler toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait promis de parler de la suite, c'est-à-dire de la fête des trompettes, mais nous avons pensé qu'il est important qu'on revienne encore sur la fête de la Pentecôte ou la fête des semaines pour toucher un certain nombre de points importants. Alors rapidement, nous allons prendre notre passage de base dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 23. Nous lirons du verset 1 au verset 2 et du verset 15 au verset 22. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel, à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut et un jeune taureau. Et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera les victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec des pains des prémices, et avec 2 agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants et pour vos descendants dans tous les lieux que vous habiterez. Enfin, le verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit qu'en Israël, la fois passée, en parlant des fêtes en général, nous avions dit qu'en Israël, il y avait en effet, chaque année, Israël devait observer principalement 7 fêtes religieuses. Et ces fêtes étaient célébrées au cours des 7 premiers mois. Hein, pendant les 7 premiers mois, on devait célébrer ces fêtes. Les 3 premières fêtes étaient célébrées le premier mois et il y avait une fête qu'on célébrait entre les 3 premiers mois et les 3 derniers mois. C'était la fête de Pentecôte que nous voyons aujourd'hui. Et ensuite, les 3 dernières fêtes étaient célébrées au 7e mois. Pourquoi ces fêtes? En fait, ces fêtes étaient fêtées, disons, on célébrait, on avait ces célébrations principalement pour commémorer et honorer tous les événements spéciaux dans l'histoire du peuple de Dieu. Et ensuite, on faisait ces fêtes bien-aimées pour démontrer la nature prophétique des fêtes de l'Éternel, qui sont en effet l'ombre des choses à venir. Parce que la Bible dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Pourquoi on devait célébrer ces fêtes, bien-aimés dans le Seigneur? C'était pour élever l'Éternel. Voilà pourquoi. La Bible dit ici que c'était les fêtes de l'Éternel. Et comme c'était les fêtes de l'Éternel, Dieu devait donner l'orientation concernant ces fêtes-là. Il ne devait pas célébrer comme il voulait, tel qu'il pensait, mais bien-aimé, il devait recevoir l'orientation, le modèle de ces fêtes. Et nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fêtes dans l'Église aujourd'hui, mais bien-aimé, souvent les gens disent que ces fêtes, on les fête ou on organise ces célébrations parce que nous avons lu les Écritures, parce que c'est écrit, mais quelquefois, bien-aimé, nous laissons de côté d'autres. Il est important de savoir qu'on ne peut pas vivre sous la grâce et en même temps sous la loi. Non. Isaac et Ismaël ne peuvent pas demeurer dans la même maison. C'est pourquoi même dans l'ombre, déjà lorsque Dieu parlait des champs ou des plantations, il a parlé par exemple des semences, il dit, tu ne mettras pas deux sortes de semences dans le même champ. Bien-aimé, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Représentaient, bien-aimé, Christ et le temps de la grâce que nous connaissons. On ne peut pas, bien-aimé, en même temps, vivre sous la loi et sous la grâce. Ce n'est pas possible. Soit nous sommes sous la loi, soit nous sommes sous la grâce. Parce qu'il est question de dispensation. Aujourd'hui, si l'Église souffre aujourd'hui, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas la notion de la dispensation. D'abord, c'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est la façon dont Dieu fait les choses, bien-aimé, à une période donnée, avec un peuple donné ou une personne donnée. C'est très important. Et en général, on distingue trois sortes de dispensation. Il y a la dispensation des patriarches. Dans la dispensation de patriarches, Dieu agissait avec un homme et sa famille. Nous voyons le cas de Noé et sa famille, Abraham et sa famille, de Jacob et sa famille. Et après la dispensation des patriarches, nous avons la dispensation de la loi. Et dans la loi, Dieu agissait avec un peuple, avec tout un peuple. Et c'était spécifiquement le peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait soutiré du monde, choisi au milieu du monde pour se révéler à lui. Et nous avons la dispensation de la grâce. Cette fois-ci, Dieu n'agit pas avec un peuple, mais au travers de l'Évangile, Dieu agit avec chaque individu. De telle sorte que pour recevoir le salut, chacun doit accepter l'Évangile, accepter le salut de Christ de façon personnelle. Donc c'est ça, bien-aimé, l'essor des dispensations. Et la dispensation dans laquelle nous sommes maintenant, c'est la dispensation de la grâce. On ne peut pas mélanger, excusez-moi, et la grâce et la loi. Ce n'est pas possible. Mais nous constatons dans cette génération, les gens, je ne sais pas si c'est exprès qu'ils ont fait, qu'ils font cela, on a ramené un certain nombre de choses qui concernent la dispensation de la loi. Bien-aimés, par rapport aux Écritures, la Bible dit, celui qui veut vivre sous la loi doit accomplir la loi de A à Z. Or, Israël lui-même, c'est-à-dire le peuple d'Israël que Dieu avait choisi, n'a pas pu, bien-aimés, vivre sous la loi. C'est là où le prophète dit que Dieu avait envoyé une loi, cette loi, bien-aimée, comme un feu pour les consumer. Mais ils n'ont pas, bien-aimé, pu vivre sous la loi. Et l'apôtre Paul explique. En effet, la loi n'est pas mauvaise, mais la loi était un pédagogue, un enseignant pour les conduire à la grâce. Et la grâce étant venue, on n'a plus besoin de demeurer encore sous la loi. C'est là où l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 10, que tout celui qui vit sous la loi ou qui marche selon la loi est sous la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Christ a porté notre malédiction sur le poteau de calvaire afin de nous libérer de la prison, afin de nous libérer de la dépendance de la loi. Et c'est ainsi que nous marchons maintenant, bien-aimés, dans la grâce. Et si dans la loi, les lois étaient écrites sur des tables de pierre, mais maintenant, sous la grâce, la loi de Dieu est écrite sur notre cœur. Et c'est ainsi que, bien-aimés, nous pouvons servir le Seigneur de façon libérale, sans être bien effrayés et sans marcher bien-aimés, sous la loi. Et par rapport au peuple d'Israël, ils avaient sept fêtes. Et les sept fêtes devaient être célébrées chaque année. Chaque année, Israël avait sept fêtes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, à l'Église, dans l'Église, ils ont pris par exemple deux fêtes. On célèbre la fête de Pâques et on célèbre la fête de la Pentecôte. Mais pourquoi on a laissé les cinq autres fêtes? Parce que sous la loi, si vous voulez prendre un truc, vous devez prendre le tout. Selon la loi, si vous obéissez à 99%, vous êtes tombé. Chez Dieu, ce soit rien ou soit le tout. Or, la loi était un pédagogue, mais maintenant la grâce est venue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés, marcher selon la grâce. Et selon la grâce, puisque ces choses sont écrites pour notre instruction, que signifie alors ces fêtes pour nous? Est-ce que pour nous, l'Église, puisque la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, et en montant à la croix, il a mis fin à la loi. Et il a emmené, bien-aimé, l'ère de la grâce. Et sous la grâce, bien-aimé, la loi, c'est la loi de l'esprit et non de la chair. Est-ce que nous devons encore célébrer ces fêtes de façon charnelle? C'est ce que, bien-aimé, nous essayons d'expliquer parce qu'il y a des gens mal inspirés qui ont utilisé aussi ces célébrations pour soutirer de l'argent aux gens. La fois passée, surpassée, par exemple, on a parlé des prémices. On nous a toujours fait penser que les prémices signifient le premier salaire. C'est-à-dire quand tu commences à travailler, le premier salaire, tu dois donner au pasteur. Ce n'est ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance. Mais je ne sais pas où les gens ont pris ça. Certainement par un autre Dieu. Vous savez, il y a un Dieu dans Philippiens 3, verset 19. La Bible dit, c'est Dieu, ces gens ont pour Dieu leur propre ventre. Donc il y a aussi un Dieu qu'on appelle le Dieu du ventre. Hein? Le Dieu qui fait parler des pseudo-prophètes qui disent, je vois dans la salle, Dieu a dit que cinq personnes vont donner tel montant. Ils auront une prière spéciale. Oui, c'est Dieu qui a dit, mais ce n'est pas le véritable Dieu. On va avancer. Donc, bien-aimés, nous avons dit qu'il était important qu'on parle de la fête de Pentecôte. C'était quoi la Pentecôte? À l'époque, la fête des semaines, aussi appelée la Pentecôte, avait lieu lors de la moisson du blé. Hein? C'était 50 jours après la fête des prémices. Ce jour-là, le peuple de Dieu lui rendait grâce pour la nourriture abondante qu'il lui procurait et pour tout le soutien que Dieu apportait à son peuple. Donc, la fête de Pentecôte, en fait, c'est aussi la fête de la moisson, parce que les prémices représentent aussi la fête de la moisson. Mais ici, bien-aimés, c'était la grande moisson. Et vous comprenez que ce jour-là, c'était 50 jours après, tous les Juifs, en effet, pendant cette fête, on appelait de façon traditionnelle, on appelait tous les Juifs revenaient au pays, en Israël. Pour la célébration. Non, les Juifs qui étaient partis loin d'Israël étaient obligés de revenir dans la nation pour célébrer cette fête. Et pendant cette célébration, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, tout à coup il se fit un grand tremblement, il y a eu un bruit et le Saint-Esprit descendit sur eux et tous commencèrent à parler en d'autres langues. Au point où les gens qui n'étaient jamais sortis d'Israël prophétiser et parler, bien-aimé, parler, glorifier Dieu dans la langue, dans les langues des gens qui venaient de l'extérieur. Et ces gens étaient surpris. Pourquoi Dieu avait fait cela? C'était des langues intelligibles, des langues qu'on pouvait comprendre. Dieu avait fait cela pour montrer que quelque chose d'en haut venait de se passer, parce que c'était un miracle. Et l'apôtre Paul, plutôt Pierre, va annoncer que c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, nous voulons dire ceci, que les disciples n'étaient pas des pentecôtistes, parce qu'aujourd'hui, il y a un courant qui dit que bon, ceux qui croient au baptême du Saint-Esprit, on les appelle les pentecôtistes, ou encore les églises pentecôtistes. Les apôtres ne célébraient pas la Pentecôte. Les apôtres étaient dans la chambre haute en train de prier. Et tout à coup, l'esprit est descendu. Et après cette période, on n'a pas vu un endroit où les apôtres ont encore célébré, soi-disant, la fête du Saint-Esprit, pour dire que la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Quand on commémore la descente du Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit vivait en eux, ils marchaient par l'Esprit, et c'était naturel pour eux. Donc voilà pourquoi nous ne voyons pas un endroit dans la Bible où les apôtres célèbrent la fête de la Pentecôte, comme cela se fait aujourd'hui dans les églises. Mais qu'est-ce que bien-aimé la Pentecôte représente pour nous? Parce que, bien-aimé, c'était la grande moisson. En effet, comme je disais, la fête des prémices, c'était la petite moisson. Mais la fête de la Pentecôte, ici, bien-aimé, c'était la grande moisson. Donc, il y a la petite moisson et la grande moisson. Souvenez-vous, Dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus parlant avec ses disciples, il a dit, levez les yeux, vous pouvez voir, bien constater dans les champs, vous allez voir, vous allez remarquer que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit, comme la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, allez dans les champs, allez commencer à travailler. Il dit non, demandez au maître de la moisson afin qu'il envoie ses serviteurs. Or, il a vu que la moisson était grande, il fallait envoyer, bien-aimés, les ouvriers. Donc, la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte pour nous, représente, bien-aimés, cette grande moisson, bien-aimés. Mais pour que cette grande moisson se fasse, il fallait, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ descende en esprit. Il a dit ceci, il faut que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, il ne viendra pas. Il dit, le Saint-Esprit que vous voyez, et que vous verrez parce qu'il serait en vous. Parce qu'à un moment, il dit, je serai en vous. Bien-aimé, c'est la même personne. Mais la petite moisson, pourquoi la différence entre la petite moisson et la grande moisson? Parce que lorsque c'était la petite moisson, cela, bien-aimé, était limité à Israël. Il a dit, j'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Et étant dans la chair, il ne pouvait pas être au même moment partout dans le monde. C'est pourquoi au départ, il était envoyé seulement pour Israël. Mais lorsqu'il était sur le point de partir, il dit maintenant aux disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et il dit, en commençant par Israël, en le baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, en commençant par Israël, et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, c'est très important. Hein, lisons un peu ça dans, c'est de quoi qu'il est, Actes chapitre 8, verset 1. La grande mission que le Seigneur donna aux disciples. Acte 8, verset 1, pardon, 1, 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez, avant, c'était la petite mission, lorsqu'il est venu en Israël. Mais lorsque, bien-aimé, il doit, bien-aimé, s'étaler dans le monde, c'est maintenant la grande moisson. Mais il dit ceci. Pour que cette grande moisson se fasse, il faut que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns d'être comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, etc. Or, l'apôtre Paul, Pierre avait dit quoi? C'est ici ce qu'avait prophétisé le prophète Joël. Dans les derniers jours ou à la fin des temps, je répandrai mon esprit. Donc, lorsqu'on parle de la fin des temps, la notion de la fin des temps, c'est bien aimé, la période qui commence après la descente du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus. La fin des temps, ce n'est pas 1900, les années 1900, parce que les gens disent qu'il y a un prophète qui est le prophète de la fin des temps. Hein, tous les prophètes de la fin des temps, là. Bien aimé, la fin des temps, ce n'est pas 1900 et quelques ou 1800. La fin des temps, c'est depuis l'Esprit est descendu. Parce que, bien aimé, c'est l'ère nouveau qui commence. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand il dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que je veux dire? La grande moisson, c'est plus large. Et là, le Seigneur Jésus-Christ ne devait plus être en chair, mais devait, bien aimé, s'éparpiller dans la vie de chaque croyant. C'est-à-dire, il devait monter afin qu'il descende en esprit pour être au même moment dans la vie de tous les croyants et s'étendre dans toutes les générations, plutôt dans toutes les nations. Voilà pourquoi, lorsqu'il marchait sur terre, en Israël, il dit, je suis la lumière du monde. C'était la petite moisson. Mais après, pour nous, il dit, vous êtes la lumière du monde. À quel moment? Lorsque le Saint-Esprit serait dans les disciples. Et cela nous fait comprendre la prophétie de Joseph, ou le songe de Joseph, parce que Joseph avait vu dans son songe, il y avait l'étoile, plutôt il y avait le soleil, la lune et les étoiles. Et son père va interpréter en disant, tu veux dire que moi, ton père qui suis le soleil, et ta mère qui est la lune, et tes frères les 11 étoiles. Donc nous comprenons par là que lui, le père, le soleil, c'est lui, le soleil, et la lune, c'est la mère. Or, la Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le soleil se confond. Ou plutôt, l'ombre se confond avec le corps à midi. Il était bien aimé en Israël à midi. Lorsque l'ombre était confondue, bien aimé avec le corps, on pouvait voir le corps visible Parce que dans la loi, il était l'ombre. On voyait l'ombre, mais il fallait qu'il vienne physiquement. C'est pourquoi la Bible dit, Jean témoigne en disant, on l'a vu, sa grâce et la parole s'est faite chair. Elle habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair. Là, c'était midi. Là, c'était le soleil. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et il faut que bien aimé, qu'on puisse aussi éclairer la nuit. Or, la nuit, ce n'est pas le soleil qui éclaire. La nuit, bien aimé, c'est la lune qui éclaire. Donc, si le soleil, c'est le mari, la lune, c'est la femme. Si le soleil, c'est Jésus, la lune, c'est l'église. Donc, en ce temps de la fin, c'est l'église qui éclaire. Mais ce n'est pas par sa propre lumière. C'est la lumière, bien aimée, qu'elle détient, bien aimée, de Jésus-Christ, qui est le soleil. Donc, Christ éclaire la lune, et la lune, par la lumière qui est en elle, qu'elle reçoit de son mari, de son époux, qui est Christ, elle éclaire maintenant les nations. Et c'est comme ça que, bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Et pourquoi il nous a éclairés? Afin que nous entrions et que, bien-aimés, nous commencions cette grande moisson. La moisson, bien-aimés, de gagner les âmes. Donc, quand on parle de la Pentecôte, bien-aimés, c'est le gain des âmes. C'est le moment de la grande moisson. Il ne s'agit pas ici, bien-aimé, de faire du bruit. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, les gens pensent que le Saint-Esprit signifie l'esprit du bruit. Quand il y a beaucoup de bruit, on dit que l'esprit est là. Non, bien-aimé. La présence du bruit ne justifie pas, bien-aimé, la présence du Saint-Esprit. Mais la présence du Saint-Esprit emmène le réveil. Quand on parle du réveil, c'est la prise de conscience. Ce n'est pas le bruit. La prise de conscience. On marchait comme on voulait. On avait suivi nos propres voies. Mais on doit faire un demi-tour pour repartir vers le Créateur, se sanctifier et être des vases purs pour gagner d'autres âmes, faire entrer d'autres âmes bien-aimées dans le ciel, afin que bien-aimées, afin de présenter ces âmes à Dieu, afin de présenter ces âmes à Dieu comme bien-aimées des vases purs. C'est très important. Donc quand on parle de la Pentecôte, c'est bien-aimé dans le Seigneur la grande moisson. Mais est-ce que nous faisons ce travail de la grande moisson? Ou nous avons pensé que le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est simplement pour notre bien. Hein, on doit se contenter du fait que, bon, on est délivré, on mange bien, on est protégé, on avance, etc. Bien-aimés, si les apôtres avaient en vue cette pensée-là, certainement l'évangile n'allait pas nous atteindre. Mais ces gens bien-aimés avaient à tout abandonné. Et ils avaient tout le temps la pensée de faire de gagner les âmes et d'étendre l'évangile. C'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et plusieurs personnes ont lâché leur vie, plusieurs sont morts, sont mortes, bien-aimées, à cause de l'évangile. Lisez l'histoire de l'Église. Vous allez apprendre, bien-aimées, ce que c'est la persécution. Comment ces gens ont vécu. Et comment ils ont laissé leur vie. Comment, bien-aimées, à une certaine année, les gens signaient même leur mort avec leur propre sang. Comment est-ce que, bien-aimées, les gens étaient livrés? On voit, par exemple, les premiers martyrs comme Étienne, qui avait été lapidé. Et Marie qui le lapidait, il priait pour ses persécuteurs. On voit quelqu'un comme Jacques qui a été décapité alors qu'il marchait avec le Seigneur. Mais où était Dieu pour le protéger? Le même Dieu qui a protégé Meshach, Shadrach et Abednego du feu. Le même Dieu qui a protégé Daniel des lions. Il n'a pas protégé Jacques de la décapitation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous plaindre, mais dépendre toujours de Dieu. Parce que le plus important, c'est la fin, l'attachement à Dieu. Et la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment où nous devons gagner des âmes. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. La Bible dit, le salut est approché de vous plus que lorsque, de nous plus que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, rachetant le temps. Et comment racheter le temps? En sauvant les âmes. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Tu as été sauvé pour que les autres soient sauvés au travers de toi. C'est comme ça que, bien-aimé, ça marche. Tu n'es pas sauvé, bien-aimé, pour garder le salut pour toi-même. Jésus-Christ fait deux mouvements. Lorsqu'il vient, il rentre en nous. Le deuxième mouvement, il doit nous utiliser. Pas sortir de nous pour partir, mais nous utiliser pour gagner d'autres âmes, pour gagner d'autres personnes au Seigneur. Donc la Pentecôte, bien-aimé, c'est cette grande moisson. Cette grande moisson qui doit se faire juste avant que le retour, le Seigneur ne puisse venir sur terre. Préparons les âmes pour l'éternité. Car il est écrit dans Matthieu 24, je crois que c'est le verset 12 ou 13, que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, et après quoi viendra la fin. Donc la Pentecôte ici, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est le message de l'Évangile. Prêcher l'Évangile pur, l'Évangile qui permet aux âmes d'être sauvées, l'Évangile qui ramène les hommes bien-aimés à Dieu, pas l'Évangile qui consiste seulement à rendre les gens riches ou à conduire les hommes à courir vers le siècle présent. Mais cet Évangile pur, bien-aimé dans le Seigneur, qui appelle à la repentance. Et c'est comme ça qu'on reconnaîtra aussi que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, en tout cas, on va parler de la fête des trompettes si l'Éternel le permet. Que Dieu nous bénisse tous, gardez-nous en prière, et si l'enlèvement n'arrive pas, nous allons partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des propositions, des suggestions et même des réprimandes, pourquoi pas? On en a besoin. Si nous marchons loin de la vérité, on a besoin des réprimandes pour revenir à la vérité. Parce que le but, c'est d'être sauvé. Le but, ce n'est pas prouver qu'on connaît ou qu'on est plus que quelqu'un, non, bien-aimé. Le but, c'est revenir à la raison, être sauvé et parvenir à l'unité de la foi et grandir, bien-aimé, en Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.